nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Total pulcraes Maria. Vous êtes toute belle, ô Marie, et la tâche originelle n'est pas en vous. C'est par ce cri d'admiration que commence l'office de l'Immaculée Conception, en contemplant ce mystère de notre foi qui a été défini il y a 170 ans, jour pour jour, par le pape Pie IX, le 8 décembre 1854. Demandons-nous d'abord quels sont les motifs qui ont conduit Dieu à préserver Marie de la tâche originelle. Dieu étant Trinité, voyons-le du côté de chaque personne en ne retenant que le motif principal. Du côté du Père, tout d'abord. Saint Thomas nous dit que la sainteté est la condition nécessaire de tout ce qu'on destine à Dieu. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, David fit rassembler les matériaux les plus précieux pour bâtir le temple de Jérusalem qui devait abriter le Saint des Saints. « Ce n'est pas pour un homme qu'on prépare cette demeure, s'écriait le Saint Roi, c'est pour Dieu. » Ce temple fut magnifique, il fut l'une des sept merveilles du monde. À combien plus forte raison, il convenait que Dieu le Père, voulant faire de Marie la mère de son propre Fils, l'orna des dons les plus magnifiques, afin qu'elle fût une demeure digne d'un Dieu. Ce motif est exprimé dans l'oraison de la messe d'aujourd'hui. Dieu le Père fit bien plus pour Marie. Si nous comparons ce que le roi David a fait pour le temple de Jérusalem. Donc Dieu fit bien plus pour Marie, parce qu'elle est son chef-d'œuvre, pour reprendre l'expression de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Saint Anselme dit que Dieu orna Marie d'une pureté telle qu'on ne puisse en concevoir de plus grande après celle de Dieu. La Vierge Marie elle-même dit dans son Magnificat « Le Tout-Puissant a fait en moi de grandes choses ». Et le Père Kolb disait que l'Immaculée est une effusion toute pure de la gloire du Tout-Puissant, un reflet de la lumière éternelle. Voyons maintenant du côté du Fils. Nous n'avons pas le privilège de pouvoir choisir notre mère. Si ce pouvoir nous était donné, certainement qu'on se choisirait la plus noble, la plus belle, la plus généreuse, une mère couronnée de toutes les vertus. Le Fils de Dieu, lui, a eu ce privilège. C'est ce qui fait dire à Saint Bernard, « Puisque le Créateur des hommes voulut naître d'une femme, il dut se choisir la mère qu'il savait convenir à sa dignité. » Or, puisque Dieu est l'infinie pureté, une mère exempte de toute souillure pouvait seule convenir. Telle est la mère qu'il se donna. La Sainte Écriture dit que la sagesse s'est bâtie une maison. Le Verbe de Dieu est la sagesse éternelle, qui pour s'incarner s'est bâtie une maison, et même un château, si on peut dire. Cette maison, c'est la Très Sainte Vierge. C'est cette sagesse qui a créé l'univers, avec tout ce qu'il renferme. Nous venons de le lire dans l'Épître d'aujourd'hui. C'est elle qui a revêtu l'herbe des champs de vêtements plus magnifiques que ceux de Salomon. À combien plus forte raison cette sagesse a-t-elle orné l'âme de la Très Sainte Vierge de tous les trésors de la grâce et gardé son corps de la moindre souillure? C'est pourquoi l'Église s'écrit dans le Te Deum : Vous n'avez pas eu horreur d'habiter le sein d'une vierge. Voyons maintenant du côté du Saint-Esprit. Il convenait que le Saint-Esprit préserve Marie du péché originel, puisqu'elle est son épouse. Comme il le dit dans le Cantique des Cantiques, « Un jardin fermé, une fontaine scellée, telle est ma sœur, mon épouse. » À Lourdes, en 1858, la Vierge Marie, pour se faire connaître, a dit à Bernadette, Je suis l'Immaculée Conception. L'Esprit Saint, dit le Père Kolb, habite en l'Immaculée, vit en elle dès le premier instant de son existence, pour toujours. Le Saint-Esprit et l'Immaculée sont deux personnes distinctes qui vivent en union si intime qu'elles sont ensemble une seule et même vie. Notre mot humain d'épouse n'arrive pas à exprimer la réalité du rapport qui existe entre l'Immaculée et le Saint-Esprit. Si on proposait à un excellent peintre une épouse selon le portrait qu'il réaliserait, il s'appliquerait à la représenter aussi belle que possible. Le Saint-Esprit est l'artiste divin qui s'est choisi Marie pour épouse. Il ne fait aucun doute qu'il en ait fait une épouse immaculée. Comme il l'atteste lui-même dans le Cantique des Cantiques, « Vous êtes toute belle, ô mon ami, et il n'y a point de tache en vous. » Marie ayant été prédestinée à être la mère du Fils de Dieu, il convenait donc que la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, en fit une digne mère, en l'ornant du privilège de l'Immaculée Conception. Cette prédestination a des conséquences pour le genre humain tout entier, car Marie étant mère de Dieu, elle est par là même, elle devient notre mère selon la grâce, comme l'explique Saint Pidis. Dans le chaste sein de la Vierge, dit-il, où Jésus a pris une chair mortelle, là même, il s'est adjoint un corps spirituel formé de tous ceux qui devaient croire en lui. Si bien qu'en portant Jésus dans son sein, il faut dire que Marie portait aussi tous ceux dont la vie du Sauveur renfermait la vie. Et Saint Louis-Marie Grignon de Montfort dit la même chose d'une autre manière. Le Saint-Esprit, dit-il, ayant épousé Marie, ayant produit en elle, par elle et d'elle, ce chef-d'œuvre, Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, incarné, il continue à produire tous les jours en elle et par elle, d'une manière mystérieuse, mais véritable, les prédestinés. Puisque Marie est mère de tous les prédestinés, c'est-à-dire qu'elle est chargée de les conduire à la sainteté, à la maturité d'hommes selon la grâce. Elle va tout au long de leur vie, ici-bas, leur donner la nourriture spirituelle qui leur convient. Toute la nourriture passe par elle, comme une mère, selon l'ordre naturel, fait passer toute la nourriture à son enfant par le cordon ombilical. Le Père Kolb démontre ainsi la médiation de Marie. En réfléchissant sur cette double vérité, que toutes les grâces viennent du Père par le Fils et le Saint-Esprit, et que la Mère Sainte ne fait pour ainsi dire qu'un avec le Saint-Esprit, nous aboutissons à cette conclusion que l'intermédiaire de toutes les grâces est la Mère très sainte. En vérité, dit le Saint, chaque grâce qui se répand dans l'âme vient des mains de la médiatrice de toutes les grâces. C'est seulement au ciel que nous découvrirons avec quelle attention bienveillante notre Mère céleste s'est sans cesse souciée de chacun de nous, de chaque âme en particulier, ses enfants, pour les former à l'exemple de Jésus, son enfant premier-né, modèle de sainteté, l'homme-Dieu. Mère des prédestinés, Marie prend soin en faisant naître son Fils dans leur cœur et en leur distribuant toutes les grâces nécessaires dont ils ont besoin pour devenir de plus en plus semblables à Jésus. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle les protège également de la puissance de l'ennemi, selon ce qui était annoncé de la chute de nos parents au paradis terrestre. « Je mettrai des inimitiés entre toi et la femme, entre ta race et la sienne. Elle te brisera la tête et tu mettras des embûches à son talon. » La femme par excellence, c'est Marie. Sa descendance, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, car il tient son humanité que d'elle. Satan a blessé notre Seigneur au talon, c'est-à-dire dans la partie inférieure de son humanité, en le faisant crucifier. Mais par sa croix, notre Seigneur a obtenu la victoire totale, définitive, en lui écrasant la tête. Ce texte de la Genèse s'applique aussi à la très sainte Vierge, puisqu'elle est la mère non seulement du Fils de Dieu, mais de tous les prédestinés qui croiront en lui. Et saint Louis-Marie commente ainsi ce verset, selon ce deuxième sens. Jamais Dieu n'a fait et formé qu'une inimitié, mais irréconciliable, qui durera et augmentera jusqu'à la fin. Inimitié entre Marie, sa digne mère, et le diable, entre les enfants et serviteurs de la Vierge, et les enfants et suppôts de Lucifer. En sorte que la plus terrible des ennemis que Dieu ait faite contre le diable est Marie, sa sainte mère. Elle est l'Immaculée, elle est invulnérable, le démon ne peut rien contre elle. Alors, que va-t-il faire? Il va faire la guerre à ses enfants. Comme saint Jean nous le dit dans l'Apocalypse, « Le dragon fut irrité contre la femme. Il alla faire la guerre à ses autres enfants, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. » Ce combat, c'est le combat des deux cités décrit par saint Augustin, qui durera jusqu'au second avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Combat qui ira en s'intensifiant de plus en plus jusqu'au jour de l'Antéchrist. Marie, dit saint Louis-Marie, doit éclater plus que jamais en miséricorde, en force et en grâce dans ces derniers temps. En miséricorde, pour ramener et recevoir amoureusement les pauvres pécheurs et dévoyés qui se convertiront et reviendront à l'Église catholique. Donc, il y aura une conversion. En force, contre les ennemis de Dieu, idolâtres, schismatiques, musulmans, juifs et impies endurcis, qui se révolteront terriblement pour séduire et faire tomber par promesses et menaces tous ceux qui leur seront contraires. En grâce, pour animer et soutenir les vaillants soldats et fidèles serviteurs de Jésus-Christ, qui combattront pour ses intérêts. Alors comment reconnaître ces temps? On peut les reconnaître, on peut reconnaître que nous sommes entrés dans cette phase historique de combat intense par la fréquence et l'importance des visites que la Mère de Dieu a faites à ses enfants. Cela a commencé au XIXe siècle. Ce siècle d'or de Notre-Dame commence en 1830 avec l'apparition de la rue du Bac et la diffusion de la médaille miraculeuse, qui est un petit traité de théologie mariale. En même temps, l'abbé Desgenettes, curé de Notre-Dame des Victoires, fondateur de l'archiconfrérie du Cœur Immaculé pour la conversion des pécheurs, adopte la médaille miraculeuse comme médaille de l'association. Il obtient sa propagation d'une manière incroyable. À sa mort en 1860, l'archiconfrérie comptait déjà 20 millions de membres, 30 ans seulement après l'apparition de la rue du Bac. En 1842, on découvre à Saint-Laurent-sur-Sèvre le manuscrit du traité de la vraie dévotion de Saint-Louis-Marie, qui était demeuré caché pendant des dizaines d'années, et donc qui était inconnu à l'époque. Il va être traduit en plusieurs langues et il va se répandre dans le monde entier et amener des millions d'âmes à se consacrer à la très sainte Vierge. En 1846, toujours au même moment, Marie vient à la Salette et dans le secret confié à Mélanie, elle nous déroule la perspective des combats qui vont se dérouler jusqu'à l'Antéchrist. nous sommes bien dans cette période des combats. En 1858, la Vierge Marie à Lourdes, en se présentant comme l'Immaculée Conception, confirme le dogme défini 4 ans plus tôt par le pape Pie IX. De 1878 à 1903, c'est le règne du pape Léon XIII, le pape du Rosaire. Il écrira 9 encycliques mariales qui serviront de base au développement de la mariologie. En 1917, à Fatima, Lucie reçoit de Jésus la mission de faire établir dans le monde entier la dévotion au cœur immaculé de Marie. Et la Vierge demande aux enfants la récitation quotidienne du chapelet. Le pape Pie XII, en 1942, consacre l'Église et le monde au cœur immaculé de Marie. Et en 1954, le 8 décembre, centenaire de la définition du dogme de l'Immaculée Conception, il clôt la première année mariale, ouverte un an plus tôt, année qui accueillera 8 millions de pèlerins à Rome, en rendant un hommage à la royauté de Marie par l'encyclique Ad Re Ad Celi Reginam. Notre-Dame, notre mère et notre reine, est en ces temps de combat spirituel notre général d'armée, terrible pour ses ennemis comme une armée rangée en bataille. Elle monte en puissance dès le début du XIXe siècle, nouveau labarum présenté au monde par le pape Pie IX avec la définition de l'Immaculée Conception. Ce monde qui va nier le péché originel est tombé progressivement et d'une manière générale dans le naturalisme, entraînant des millions d'âmes dans la fange. Si Marie Immaculée nous est montrée comme avec un tel attrait, une telle puissance, c'est parce qu'elle est le dernier recours donné au monde pour le préparer au deuxième avènement de notre Seigneur, comme elle avait été préparée pour son premier avènement. Rangeons-nous donc sous son étendard, prenons les armes qu'elle nous a données, le chapelet et la dévotion à son cœur immaculé, et marchons la croix à la main avec courage, car la victoire nous est assurée. Cœur immaculé de Marie, soyez notre refuge et le chemin pour nous conduire jusqu'à Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.